de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire,
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, c'est la deuxième émission de la saison avec, bien comme la semaine dernière, des films et puis comme la semaine dernière, un blind test. Et aujourd'hui, il se trouve que ça va être une émission un peu animalière, hein, puisqu'il va être question de deux animaux qu'on peut distinguer. Il y a d'abord le chien, Sophia.
Oui, moi je vais commencer par le procès du chien, ce bestiaire, donc le procès du chien réalisé par Laetitia Doche.
Alors le chien est très répandu, hein, surtout dans la société occidentale. Alors il y a un autre animal qui est moins répandu, c'est le léopard des neiges.
Des neiges, oui, un film qui nous vient de Mongolie.
Et puis toi, Guillaume, tu vas parler d'un film qui est plutôt attendu, hein, qui sort sur les écrans le 11 septembre, c'est le film de Tim Burton.
C'est ça, c'est Beetlejuice, Alors, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de léopard, mais il y a des vers des sables.
Oui, et puis des revenants, j'imagine.
Beaucoup.
Oui. Et puis, toi, tu as aussi un film indien.
Oui, Kill, qui, comme son nom l'indique, est saignant.
Et puis, ce Beetlejuice de Tim Burton nous donnera l'occasion de jouer un blind test avec la filmographie de Tim Burton, qui est, selon moi, assez inégale. Et j'ai fait le choix, d'ailleurs, de mettre des films un peu litigieux, me semble-t-il, dans sa filmographie. Voilà, c'est Cinérama. Ça commence avec l'histoire d'un chien menacé d'euthanasie qu'il faut alors défendre. C'est un film de Laetitia Doche, Le procès du chien.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire?
Conneries, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Vous êtes beaucoup trop bavard.
Cinérama.
Un chien qui a mordu trois fois, il doit être endormi, c'est ça ce que dit la loi.
C'est vous l'avocate des causes désespérées. Faites votre boulot.
Réalisé par la franco-suisse Laetitia Doche, qui en est également l'actrice principale, co-scénarisé avec Anne-Sophie Bailly, j'ai vu Le procès du chien à Cannes en mai dernier. Un coup de cœur, hein, brièvement évoqué dans l'émission Cinérama qu'on a enregistré, hein, sur la Croisette pour cette édition 2024. Il était projeté donc dans la section Un certain regard du festival de Cannes, hein, où il remportait non pas la Palme d'or, mais la Palme Dog, prix indépendant, décerné pendant le festival pour récompenser la meilleure performance canine sur grand écran. En 2023, on s'en souvient, hein, c'était à Snoop que la Palme Dog avait été décernée, le border collie dévoué, dans le très auréolé Anatomie d'une chute de la réalisatrice Justine Triet. Alors que Snoop représentait un témoin direct de la mort de son maître, hein, dans Anatomie d'une chute, Palme d'or 2023, ici, dans Le procès du chien, le toutou à son papa qui fait des gros dodos, nommé Cosmos, comparé au tribunal sur le banc des accusés. Il a mordu au visage une femme, et c'est sa troisième morsure. Conformément à la loi, il risque donc l'euthanasie.
On y va.
Cosmos va être le premier chien à être jugé responsable de ses actes dans le premier procès de chien depuis le Moyen-Âge.
Écoutez-moi, personnellement, j'adore les chiens.
C'est elle qui défend la femme mordue.
Et ce chien, il est méchant.
Attention, toupi.
Laetitia Doche incarne le personnage d'Avril, une avocate dans un grand cabinet lausannois qui semble être connue pour s'emparer des causes difficiles et qui, malheureusement, a la fâcheuse tendance à perdre bon nombre de ses affaires. Alors qu'elle promet d'arrêter de prendre la défense de cas désespérés, Dariush, incarné par François Damiens, franchit la porte de son bureau avec son adorable compagnon à quatre pattes, Cosmos, et Avril peine alors à refuser de les défendre. Les voilà embarqués dans un procès hors du commun et extrêmement médiatisé, hein, qui va scinder l'opinion publique, car pour la première fois, un chien va être jugé au tribunal comme un homme responsable de ses actes. Avocates, maîtres et chiens seront aidés du comportementaliste canin Marc, incarné par Jean-Pascal Zadi. Celui-ci garde Cosmos pendant la durée du procès et se lie d'affection pour le chien et pour l'avocate. Jean-Pascal Zadi campe une fois encore un rôle comique mais également très touchant. C'est vraiment le registre filmique dans lequel on est habitué à le voir depuis quelques temps, hein. On pense notamment à la récente comédie Pourquoi tu souris, sortie avant les vacances, ou encore à Tout simplement noir, comédie qu'il réalisait et pour laquelle il tenait le rôle principal entouré d'un casting très impressionnant. C'est également tout le casting du Procès du chien, hein, qui est impeccable, Laetitia Doche en tête, jusqu'à l'impitoyable avocate de l'accusation incarnée par Anne Dorval, qui ne manque pas d'intenter tout type de procès moraux au petit Cosmos, produit du patriarcat.
Chien Cosmos, sans nom de famille, de sexe masculin, vous êtes fils de Barba Papa et Chocapic.
Oui.
Le scénario est à mes yeux extrêmement solide, les personnages sont construits en nuances et en profondeur, ils comportent chacun des ambivalences et leurs liens interpersonnels le sont tout autant. À commencer par la relation forte et transgressive que l'avocate Avril tisse avec son voisin de palier, qui est un jeune ado très intelligent mais victime de sa cellule familiale violente. Le duo Zadie-Doche marche aussi particulièrement bien. La romance qui se développe entre ces deux personnages est amenée avec beaucoup d'humour et une maladresse toute caractéristique de ce film qui est aussi en permanence entre délire et vulnérabilité. Tous les deux sont un peu gauches et le désir est développé et clairement situé. Du côté du personnage féminin, il est cru et il va être démasqué dans une scène parfaitement absurde par le protagoniste masculin qui révèle alors ce désir féminin pour ce qu'il est, brut et puissant. C'est extrêmement rafraîchissant de voir ça au cinéma, d'autant plus dans une comédie où justement les ressorts comiques ne sont pas exploités jusqu'à la caricature pour autant. Le film s'illustre véritablement par cette justesse dans le scénario et dans son adaptation, un remarquable équilibre lui permettant donc à la fois d'être très drôle, mais crédible, ubuesque, mais profondément touchant.
Est-ce qu'on veut vivre dans un monde qui respecte la nature de chacun, sa singularité ? On peut pas le juger comme un homme. Il faut qu'on redéfinisse le statut du chien.
En tout cas, c'est un chien.
Mais quand est-ce que j'arriverai à parler comme je suis, bordel de merde ?
Alors qu'on suit depuis une semaine un procès très attendu et très médiatisé en France, qui se tient pour 4 mois à Avignon, celui des viols de Mazan perpétrés par Dominique Pellicot et plus d'une cinquantaine d'hommes identifiés et actuellement jugés, le procès du chien peut offrir une pause salutaire, car en voilà bien un de chien sur le banc des accusés pour qui on parvient à avoir un peu d'affection et d'empathie, le seul peut-être qui ne mérite pas l'euthanasie.
À noter que ce film vous faisait penser, alors il est, on en était question en antenne, au film de Justine Triet, alors avec une avocate.
Victoria, en fait.
Oui.
Pour une simple raison, c'est qu'il y a un moment, il faut intervenir un témoin, et ce témoin, c'est un chien.
Ah voilà. Oui.
Et donc, il y a une séquence comme ça qui est absurde, loufoque, et qui évidemment évoque le film de Laetitia Doche.
Voilà, donc une autre comparaison entre... alors, il y en a une qui a eu la Palme d'Or quand même, et l'autre qui a eu la Palme Dog, comme tu l'as rappelé. Donc, le procès du chien, c'est en salle depuis le 11 septembre. Nous passons du chien, donc, au léopard, celui des neiges qui se retrouve piégé dans une bergerie. Alors, sera-t-il sauvé ? Tu vas nous en parler, Manu.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Le titre évoque toute cette vague d'ailleurs de documentaires animaliers qui a envahi les écrans depuis quelques années. Des succès surprises pour les spectateurs fascinés par ce genre de propositions. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un film qui s'appelle La Panthère des Neiges.
C'est un documentaire, oui.
Je croyais que c'était la suite ou quelque chose de... Or là, il n'en est rien en fait. Le Léopard des Neiges de Pema Tseden, est bien une fiction qui a pour sujet... donc le léopard, car il ne s'agit pas de métaphore, mais d'un majestueux léopard des neiges. Alors dans une province déserte du Tibet, ce prédateur s'introduit de nuit dans un enclos et tue 9 moutons. Ivre de sang, il s'y endort et se retrouve prisonnier au matin. Une équipe de télévision débarque sur les lieux, allant à la rencontre du berger, fou de colère. Ce dernier promet d'éliminer l'animal si l'État refuse de lui accorder une compensation financière. Alors son frère, un jeune Dalai Lama qui semble communiquer de manière subliminale avec l'animal, veut le sauver à tout prix, tout comme 2 policiers qui tentent de raisonner le berger. Alors le sujet, passionnant bien que classique, a nourri pendant des décennies une des thématiques centrales du cinéma de genre liée aux agressions animales, qu'il s'agisse d'espèces rares et menaçantes ou de monstres marins et terrestres. Mais en resserrant le récit autour de cette seule problématique, le réalisateur alors se trouve piégé par une absence de progression dramatique, répétant les mêmes séquences d'opposition jusqu'à saturation. Le film tourne en boucle, laissant le spectateur sur le bas-côté. On est constamment dans cette situation binaire, d'un côté le berger qui désire une indemnisation, sinon tuer l'animal, et puis de l'autre, son frère, le jeune lama, et les autorités sur place qui veulent garder en vie un animal d'une espèce protégée. Alors le dilemme moral et éthique hein, sur ce qui est juste et ne l'est pas est assez bien cerné par le réalisateur qui botte un peu en touche toutefois. Il prend pas parti, même si on sent qu'il se sent plus proche du jeune moine par de légers déplacements de regard, mais aussi une attention qui se traduit par une forme séduisante lors des moments clés. Le film alterne deux régimes de mise en scène très différents. Le style naturaliste, tout brut de décoffrage, hein, avec caméra portée à l'épaule, proche du docu-fiction lors des altercations, parfois très violente entre les personnages. Alors ce côté-là est adouci par des séquences oniriques en noir et blanc, truffées d'effets numériques réussis, qui montrent le rapport qui unit l'animal et le jeune moine. Alors dans ces moments en suspension, quasi mystiques, il faut saluer le travail incroyable effectué par le chef opérateur, hein, Mathias Delvaux, qui nous avait déjà éblouis avec le magnifique The Cloud in Our Room de la réalisatrice chinoise, je ne sais pas si je vais arriver à prononcer parce que c'est un peu compliqué, Xinyuan Zheng Lu, si, que j'avais ardemment défendu ici d'ailleurs. La scène où le léopard attaque les moutons, baignant dans une lumière sublime et d'une sidérante beauté, d'autant que le cinéaste a recours à la synthèse, alors ce qui intensifie l'atmosphère surnaturelle du film, là où on pourrait penser que ça tomberait dans le kitsch. Le film est plastiquement en fait très beau. D'ailleurs, le léopard est filmé, même dans le réel, comme une créature mythologique échappée d'un conte fantastique qui prendrait ses racines dans les légendes tibétaines. À cette dimension proche d'une forme de réalisme magique, le film questionne le rapport de l'homme avec la nature, ses comportements absurdes mis en perspective avec l'immensité d'une nature majestueuse. Alors pertinent sur le fond, traversé de fulgurances esthétiques, le Léopard des Neiges, hein, qui a été présenté à la Mostra de Venise en 2023, est certes beaucoup trop répétitif pour captiver, c'est-à-dire qu'il provoque on va dire ce qu'on appelle un ennui poli.
Oui.
Voilà. Mais le film est quand même très, très beau. Alors, à noter aussi que son réalisateur, hein, Pema Tseden, auteur de Jinpa, un conte tibétain également, qui était sorti chez nous, est décédé l'année dernière, en fait, fin 2023, à l'âge de 53 ans.
Voilà. Bon, l'histoire aurait été belle s'il avait été dévoré par un léopard ou je ne sais quoi, mais c'est pas
ou
le cas.
Un grizzly. Oui. Il y a eu je ne sais plus quel réalisateur de documentaire qui s'est fait manger par un grizzly comme ça.
Ah, oui. Donc, le Léopard des Neiges n'a aucun rapport avec la Panthère des Neiges, donc documentaire de. C'était en 2019. Et le Léopard des Neiges est en salle depuis le 11 septembre. C'est aussi le cas du film dont tu vas nous parler, Guillaume. C'est le gros morceau de l'émission parce que ça va nous donner l'occasion de jouer un blind test autour de la filmographie de Tim Burton puisque nous parlons de Beetlejuice qui voit le retour de Michael Keaton.
Bah oui, c'est le film et le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Ma mère a grandi ici, dans la vieille baraque sur la colline.
La maison hantée, sérieux ? Ta mère, c'est Lydia Tite ?
Ouais, malheureusement.
C'est une vraie légende ?
Beetlejuice, en fait, il suffit de prononcer son nom deux fois et pas trois pour faire apparaître cette suite. Alors bon, si ça avait été aussi simple de l'avoir, pourquoi avoir attendu presque 40 ans pour l'avoir débarqué ? Ce n'est pas faute d'avoir eu un script nommé Beetlejuice Goes Hawaiian, soit Beetlejuice va à Hawaï, qui avait été assez vite délivré après le joli succès du film originel de 88. Mais pour plein de raisons, entre autres l'envol de Tim Burton, alors à son zénith créatif à faire d'autres projets comme Edouard aux mains d'argent ou les deux Batman au succès planétaire, il resta sur l'étagère. Alors notre époque étant pleine de quarantenaires soucieux de revisiter leur jeunesse définitivement envolée et de jeunes acculturés, les studios ont depuis créé ce qu'on appelle la Legacy Quel, soit une suite qui reprend en gros toute la trame de l'original, à la fois pour flatter celui qui a vu et aimé l'original dans sa jeunesse, et flatter celui qui aura la flemme de voir ce qu'il considère être comme un vieux film pour ses rétines délicates. Alors pour Beetlejuice, la manœuvre des producteurs va plus loin. Fort du succès inattendu de Mercredi, la série que Tim Burton a produit pour Netflix, ils ont décidé de réunir à nouveau le réalisateur en totale perte d'inventivité et sa jeune star au physique propice au divertissement gothique pour réanimer un titre d'antan devenu culte et en faire un succès quasi certain. Alors la question est-ce que le résultat est aussi calculé et cynique.
Les vivants et les morts peuvent-ils coexister ?
L'occasion parfaite.
Les fantômes n'existent pas. Il n'y a que les débiles pour y croire.
J'en reviens pas de ce que je m'apprête à faire.
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice !
calcul ou pas, difficile de ne pas sourire hein, en entendant les premières notes hein, du thème de Danny Elfman, qui revient lui aussi pour apporter des variations à une partition mémorable hein, qui a aussi contribué à édifier sa légende. Et surprise, bah, Beetlejuice est tout au long fidèle hein, à ce sourire, car ses concepteurs bah, semblent avoir pris à cœur le fait de faire revenir le Ghost with the Most, hein, le bio-exorciste joué par Michael Keaton. Alors Keaton, 73 ans printemps, hein, retrouve enfin ses chaussures hein, d'acteur comique et n'a pas perdu hein, le débit rocailleux du spectre repoussant. Winona Ryder en Lydia use à merveille de son air de biche prise dans les phares d'une voiture qu'elle a su si bien mettre à profit dans la série Stranger Things qui avait signé son gros comeback. Jenna Ortega hein, passe donc de Mercredi à X puis Scream jusqu'à incarner la fille de Lydia et véritable héroïne du film ici chroniqué. Alors à l'aise hein, avec les anciens, hein, elle confirme ben, la petite aura macabre qu'elle a su faire fructifier, hein, entre autres avec Tim Burton. Willem Dafoe et Justin Theroux hein, font office de sympathique rôle de second plan, ainsi que la nouvelle compagne de Burton lui-même, hein, Monica Bellucci, qui a la lourde tâche de devenir sa nouvelle muse. Ben oui, car il est difficile hein, de parler du cinéma de Burton sans aussi parler de ses muses, de Lisa Marie à Helena Bonham Carter, en passant par Eva Green. L'autre habitué, Jeffrey Jones, mis sur la touche pour de graves condamnations, est quant à lui tout simplement dégagé astucieusement du casting en le faisant mourir dans un flashback en animation au tout début du film. Mais le plus gros plaisir est dû à l'exceptionnelle Catherine O'Hara, actrice à la carrière plus discrète, qui est un sommet hein, d'interprétation comique hein, et qui est à l'origine de pas mal des meilleurs passages du film. Bref, tout ce petit monde s'amuse comme des petits fous et c'est communicatif hein, bah, dans la mesure de ce que le scénario propose.
J'ai besoin de vous pour sauver ma fille. Mais qu'est-ce qui me dit que vous ne me trahirez pas ?
Sur l'âme de ma chère maman, je jure. Oula.
Connaissez cette poule?
Jamais vu cette gonzesse de ma vie, ni de ma mort.
Anesthésiée depuis des années au Legacy Well, bah, consternante comme Hocus Pocus 2, hein, bah, c'est par son écriture que Beetlejuice surprend le spectateur. Alors non seulement c'est une vraie suite, hein, mais c'est aussi une histoire suffisamment originale pour éviter la redite du classique de 88, même s'il y a forcément des passages obligés bah, via un moment chanté, alors avec et sans Henri Belafonte, hein, un verre des sables, un mariage forcé, etc. etc. Rien de bien gênant, hein, car encore une fois, tout le monde a décidé de s'en payer une bonne tranche. Beetlejuice réserve quelques agréables surprises hein, et bons moments comme un bébé à la Branded, les origines de la rencontre du bio-exorciste avec sa femme Dolores, qui est racontée en italien à la façon du masque du démon de Mario Bava, des amitiés tissées hein, qui ne sont pas ce qu'elles semblent être, ou une petite réflexion sur le deuil un peu plus touchante qu'il n'y paraît dans ce grand 8 bruyant. La grosse différence avec la réussite totale de l'original, bah, c'est que, bah, outre un rythme mieux géré au montage et un final malheureusement hein, expédié en 2 minutes, bah, le personnage de Beetlejuice a été considérablement polissé pour respecter les standards bien plus fragile d'aujourd'hui. Rappelons hein, que ce qui faisait le sel de ce personnage hystérique était son appétence pour le sexe et qu'il se positionnait bien plus en figure inquiétante d'agresseur à abattre que de fantôme redresseur de tort. Alors exit hein, donc hein, des sous-entendus graveleux qui faisaient rire les parents, gloussaient les enfants ouverts au double sens et qui donnaient énormément de vitalité au bio-exorciste bah, via le jeu déchaîné de Michael Keaton. Et même si notre époque actuelle est désormais très éloignée hein, de ce moment béni où Hollywood fit de la comédie noire et macabre bah, une obsession hein, plus ou moins familiale de quelques années, hein, de Beetlejuice en passant par la famille Adams, Casper ou encore Hocus Pocus ou les contes de la crypte à la télévision, Beetlejuice est suffisamment bien emballé pour faire patienter jusqu'à Halloween. Et ça fait plaisir parce que Tim Burton, c'était pas trop la joie quand même hein, ces dernières années.
Eh oui, il y a du bon et du moins bon. J'espère en tout cas que Winona Ryder, elle avait deux expressions dans Stranger Things, j'espère qu'elle en aura beaucoup plus dans ce film. Alors ce film, donc Beetlejuice nous donne l'occasion de jouer avec la filmographie de Tim Burton. C'est un blind test, donc on écoute un extrait, il faut trouver le titre, premier extrait.
Ça va aller, docteur? Les années passées dans la solitude ne l'ont certainement pas aidé à faire la distinction entre le bien et le mal. Il n'a eu aucun guide, il a été complètement livré à ses instincts. De même, son travail, je veux dire, les tailles ornementales dans les jardins, les coupes de cheveux, tout cela indique une nature très imaginative, très créative. Il semble évident que la conscience qu'il a de ce que nous appelons la réalité est chez lui nettement sous-développée.
Mais dites-moi, est-ce que ça ira pour lui si on le laisse sortir ?
Ah mais oui, très bien.
Vous avez trouvé ?
C'est Édouard aux mains d'argent.
Oui, bah, y avait quelques indices quand même. Film avec Johnny Depp, Winona Ryder, sorti en 1990. Édouard Scissorhands n'est pas un garçon ordinaire, création d'un inventeur. Il a reçu un cœur pour aimer, un cerveau pour comprendre, mais son concepteur est mort avant d'avoir pu terminer son œuvre. Hein. Il lui a présenté des petites menottes, mais voilà, il a eu la petite crise cardiaque. Et Édouard se retrouve avec des lames de métal et des instruments tranchants en guise de doigts. 618 000 entrées en France. Deuxième extrait pour ce blind test consacré à la filmographie de Tim Burton.
Vous ne me connaissez pas, mais je m'appelle Edward Bloom. Et je vous aime. Je viens de passer 3 ans à travailler pour découvrir qui vous êtes. On m'a tiré dessus, j'ai été poignardé, piétiné plusieurs fois, j'ai eu 2 fois des côtes cassées. Mais ça en valait la peine, puisque vous êtes là, devant moi, et que je peux enfin vous parler. Parce que je suis destiné à vous épouser. Je l'ai su à l'instant même où je vous ai vu au cirque, et aujourd'hui j'en suis plus sûr que jamais.
Je suis désolée.
Vous n'avez pas à être désolée pour moi. Je suis l'homme le plus heureux que vous verrez aujourd'hui.
Je suis désolée, je suis fiancée, je vais me marier.
Ça a été trouvé.
Bah, c'est un peu le film de la discorde, hein, parce que c'est Big Fish, celui par lequel tout a mal tourné, on va dire, pour beaucoup.
Et en tout cas, c'était en 2003 avec Evan McGregor. Edward Bloom est un conteur, un homme aux histoires aussi extraordinaires qu'incroyables. Ses contes et anecdotes qu'il ne cesse de raconter forment l'histoire de sa vie. Mais aujourd'hui, Edward Bloom est mourant et son fils William revient à son foyer où il lui demande de lui raconter la vérité cachée derrière toutes ces histoires. Abracadabrante, c'est presque 1 million d'entrées en France pour ce film. 3e extrait.
J'aime pas ça. Tu pourrais me résumer ?
Ce livre est bizarrement foutu, tu sais. Qu'est-ce que tu veux savoir ?
Eh ben, pourquoi as-tu disparu quand tu as passé cette porte ? Est-ce qu'on est à mi-chemin entre l'enfer et le paradis ? Est-ce que ça va durer longtemps ?
Non, ce bouquin ne parle pas de l'enfer et du paradis. On dirait plutôt un manuel d'instruction en électronique. Périmètre géographique et temporel. Les périmètres véritables varient de manifestation en manifestation. Ouais, ça va prendre du temps pour comprendre.
Ouais, carrément.
Alors, il y avait... Oui, on se moquait de la version française.
La version française. Ouais, on dirait presque un film pornographique.
En tout cas, c'est la version sur les plateformes. Donc, ça a été trouvé.
C'est Beetlejuice.
Oui, donc la version de 1988 avec Michael Keaton, Alec Baldwin et Gina Davis. Un couple mort précipitamment, voit leur maison occupée par une riche et bruyante famille new-yorkaise qui veut modifier la maison. Et les défunts n'ont qu'une idée, les faire fuir. Ils doivent faire appel à un bio-exorciste, donc freelance, hein, connu sous le sobriquet de Beetlejuice. 628 000 entrées en France à cette époque, en 88. Voilà, ça a mieux marché pour ce film. 4e extrait.
Nous sommes ce qu'on appelle communément des êtres particuliers. Les gens comme nous sont persécutés depuis la nuit des temps. C'est pour cela que nous vivons dans des endroits comme celui-ci. J'appartiens à une certaine catégorie, les embrunes.
Oui, je sais, les gens qui se transforment en oiseaux.
Vous avez raison, c'est exact. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Le principal talent d'une ombrune est la manipulation temporelle. Nous choisissons un endroit sûr et un jour tranquille et nous créons une boucle.
Je comprends pas.
Une boucle temporelle permet de sauvegarder les dernières 24 heures. Si on renouvelle la boucle, on peut de nouveau vivre ces 24 heures. Si on recommence chaque jour, ces 24 heures durent pour l'éternité. Et on y réside à jamais à l'abri du monde extérieur. Toutes les ombrunes s'engagent à créer et diriger un établissement tel que celui-ci. Un foyer pour enfants particuliers.
Alors bon, ceux qui ont vu le film, il y avait énormément d'indices, donc ça a été trouvé.
C'est Miss Peregrine et les enfants extraordinaires.
Oui, sorti en 2016, c'est l'adaptation d'un roman. À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et l'existence d'un monde mystérieux qui le mène dans un lieu magique, la maison de Miss Peregrine pour enfants particuliers. Mais le mystère et le danger s'amplifient quand il apprend à connaître les résidents, leurs étrangers pouvoirs et leurs puissants ennemis. Et finalement, Jacob découvre que seule sa propre particularité peut sauver ses nouveaux amis. 2,7 millions d'entrées en France, hein, quand même, pour ce film. Cet autre film avec lequel nous allons terminer ce blind test sur Tim Burton en a fait beaucoup plus.
Non, je rends des visites à mon père. Comment se porte mon vieil ami ? C'est le début de la fin, hélas. Je voudrais le voir plus souvent, mais nous vivons une époque difficile. Les humains infestent nos provinces.
Parce que nos cités empiètent sur leur habitat.
Nous nous prélassons dans notre confort et eux se reproduisent trop vite. Nous nous battons déjà 1 contre 10.
Pourquoi le gouvernement ne les stériliserait-il pas, tout simplement ?
C'est financièrement impossible. Cela dit, nos scientifiques m'informent que les humains véhiculent des maladies terribles.
Et comment le saurions-nous, étant donné que l'armée brûle les cadavres sans qu'on les examine ?
Trouvé également, plein d'indices.
Et c'est la planète des singes.
Oui, film sorti en 2001 avec Tim Roth et Mark Wahlberg. Il y en a un qui fait un gorille et puis l'autre qui fait un homme. En 2001, Tim Burton donc, a mis en chantier une nouvelle version du film original qui se voulait plus comme une nouvelle vision du roman que comme un véritable remake. Autant dire qu'il est, il est très très loin de,
c'est raté, hein.
De la nouvelle saga. Voilà.
Et c'est peut-être celui-là qui est l'objet du...
Oui,
oui, mais celui-là était assumé, il comme, celui-là était assumé comme pas de côté, ouais, de Burton. Oui. Il savait qu'il faisait comme... Il avait dit lui-même, j'essaie de faire un film à la Cameron, mais en fait, j'ai pas eu les épaules pour le faire. Tandis que Big Fish, c'est censé être du pur Burton, et moi je pense que ouais, c'est...
Moi ça c'est, commence c'est pas, à s'y piolo, bon, pour ma part.
Ah oui,
moi je sens déjà quelque chose qui ne fonctionne plus.
3,7 millions d'entrées en France donc pour ce Planète des Singes, et bon, s'il y a une chose à dire, c'est qu'il vaut mieux regarder les tout nouveaux qui sont sortis, les trois derniers. Ainsi s'achève ce blind test consacré à la filmographie de Tim Burton. Dans un train en Inde, des voleurs font une prise d'otage mais vont tomber sur plus fort qu'eux. Nous parlons de Kill.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
Vous ne m'êtes pas très sympathique.
Bienvenue. Veuillez vous préparer à embarquer. Nous vous souhaitons un agréable voyage, ainsi qu'une excellente journée. Merci pour votre attention.
Et oui, beaucoup de méchants et homme gentil, hein, qui est fort en muscle, qui fait partie du voyage et qui va rendre coup pour coup. Alors, ce film indien a un début extrêmement classique, hein, l'arrière-train coincé entre passé et présent. Alors, le passé, bah, pour tous les films du genre, hérité de la formule mise en place par Piège de cristal de John McTiernan en 88, bah, où un homme se retrouve coincé au mauvais endroit, au mauvais moment, dans un lieu clos, et qui va devoir éliminer un par un tous les agresseurs venus pour d'obscures raisons, isoler tout le monde et en tirer profit. Alors, ce schéma a fut si populaire qu'on a même appelé toutes ses copies des Die Hard Like, de son nom d'origine. Alors ici, on se rappelle surtout de l'un des fameux et probablement le plus fun dérivé, hein, de ce film-là, c'est Piège à grande vitesse de Goff Murphy, qui mettait en scène une attaque terroriste qui prend en otage tout un train, mais manque de peau pour les terroristes, l'un des passagers enfermé avec eux n'est autre que Kazé Ryback, joué par l'inénarrable Steven Seagal, ancien gros dur de l'armée reconverti en cuistot et qui va t'offrir de casser des bras et de fabriquer des bombes avec des seaux à cocktail et des glaces. Ben oui. Donc il reprend peu ou prou la même formule, hein, avec cette petite touche de présent héritée du succès phénoménal de la saga John Wick, où Keanu Reeves bastonne tout le monde avec le plus grand sérieux possible et toute une série d'enchaînements, techniques et aptitudes aussi millimétrées qu'abracadabrantesques, malgré, on l'a dit, le sérieux indécrottable de l'entreprise. Et bien Kill, c'est un peu tout ça aussi, hein, provoquant assez vite des bâillements, car voir les mêmes personnes qui se tapent dessus sans jamais vraiment faiblir au mépris de toute logique, hein, même dans le cadre d'un film d'action excité, ça lasse assez rapidement. Mais c'était sans compter le coup de théâtre opéré par les scénaristes. Alors, passer les 45 premières minutes sur 1h45 de film, quand même, de relatif ennui, un rebondissement assez osé qu'on ne verrait pas arriver dans un film occidental, ou tout du moins pas de manière aussi sadique, fait basculer le film dans une autre dimension. C'est à ce moment-là que le titre du film apparaît à l'écran et désormais notre héros va littéralement repeindre les murs des wagons avec le sang de ses ennemis. Le problème de Kill, c'est qu'il fait à la sauce indienne ce que John Wick a fait au cinéma d'action américain, hein, à savoir dévitaliser une intrigue et le caractère de ses personnages pour mettre au premier plan la violence qui devient ici de l'ultra-violence. Alors ce n'est pas tant que le film soit excessivement brutal, c'est surtout qu'à force de vider la substance même de ce qui fait une histoire, on en vient à enchaîner de manière assez obscène les scènes explicites à la manière du plus basique des pornos. Et cette obsession pour la surenchère finit par desservir tout l'intérêt qu'on peut porter à un simple divertissement bourrin, car au final, tous les combats et blessures se ressemblent. Alors l'absence totale de logique qui veut qu'une personne poignardée 20 fois peut encore parer les coups de ses 425 adversaires et arriver à leur tournis de tête pourrait relever de la licence poétique et faire partie de la suspension d'incrédulité, mais c'est un peu comme quand vous envoyez des voitures dans l'espace dans Fast and Furious. Au bout d'un moment, on soupire bien plus que ce qu'on ne s'amuse. Alors en fait, il faut choisir. Soit on épouse un aspect volontairement outrancier et cartoonesque, comme dans le film de baston The Story of Ricky, qui est ouvertement gore, mais à la manière d'une bande dessinée, ou alors on opte pour le sérieux et on s'y tient. Alors l'éclatage de tête à l'instincteur, repris de Irréversible, montre que son réalisateur a envie de faire plus mal qu'autre chose, celui qui blesse le plus, c'est l'empathie pour le personnage principal, qui n'avait déjà pas grand-chose pour se défendre, mais qui là passe pour un psychopathe au dernier degré. Alors si vous voulez voir ce que le 15h17 pour Paris série aurait donné s'il avait été réalisé non pas par Clint Eastwood, mais par Gaspard Noé, ben vous pouvez donc prendre votre ticket. À noter que, comme par hasard, les Américains producteurs de John Wick se sont dit « Tiens, on va en faire un remake !»
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. De vous revoir. De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine, encore pour Cinérama. Je vous parlerai du film de Mohamed Rasoulof, l'Iranien, qui était à Cannes et qui a remporté un prix. Et vous, messieurs ?
Et moi, je vous parle d'un documentaire de Valeria Donzelli qui s'appelle Rue du Conservatoire et puis Jour de colère.
Et putain, un film, Guillaume.
Oui, alors il sort en VOD, mais en fait, il avait une sortie en salle qu'on avait ratée parce qu'il n'y avait pas beaucoup de salles. Donc, c'est l'occasion de rattraper la morsure.
À la semaine prochaine.